Chapitre 19. Un paysage ondoyant de cendres. L'inspecteur Yonalina monte l'escalier puis s'arrête, interdit, devant une pièce entièrement noire. Le sol, les murs et le plafond sont carbonisés. Une odeur nauséabonde imprègne tout. Il ne reste quasiment rien des murs non porteurs. Des stalactites noires pendent au plafond. Sur ce paysage ondoyant de cendres, se détachent des morceaux des verrous qui n'ont pas totalement fondu. À certains endroits, on peut voir l'étage inférieur à travers le contre-plafond. En revanche, il n'est plus possible de distinguer quelle partie de l'étage était occupée par l'appartement de Björn Almskog. Du plastique gris recouvre les fenêtres béantes qui donnent sur une façade verte chauffée par le soleil estival de l'autre côté de la rue. Personne n'a été blessé lors de l'incendie du 47 Pontoniergatan, car la plupart des occupants de l'immeuble étaient au travail lorsqu'il s'est déclenché. Le premier appel d'urgence a été passé à 10h35. Bien que la caserne de pompiers de Kungsholmen soit très proche de l'immeuble, le départ du feu a été si violent que 4 appartements ont été dévastés. L'homme qui avait été dépêché sur les lieux, Hassan Sükür, avait assuré à Yona que selon toute probabilité, les résultats de son enquête indiquaient que le feu s'était déclenché dans l'appartement de la voisine. Lisbeth Viren, âgée de 80 ans, s'était rendue au tabac du quartier pour échanger un ticket à gratter trislot gagnant contre 2 autres et ne parvenait pas à se rappeler si elle avait laissé son fer à repasser branché. Le feu s'était propagé très vite. Et on avait déterminé son foyer dans le salon près de ce qu'il restait d'un fer et d'une planche à repasser. Yona laisse errer son regard sur les 2 appartements dévastés. Il ne subsiste du mobilier que des morceaux de métal tordu éparpillés ici et là, les restes d'un frigo, la structure d'un lit et une baignoire recouverte de suie. Yona retourne dans la cage d'escalier dont les murs et le plafond ont été abîmés par l'épaisse fumée. Il s'immobilise à la hauteur des rubans de signalisation de la police et lance un dernier regard derrière lui. En se baissant pour passer sous les rubans, il s'aperçoit que les policiers ont fait tomber quelques sachets d'UO utilisés pour conserver des matières volatiles. Yona repasse par l'entrée de l'immeuble en marbre vert et franchit le seuil de la porte donnant sur la rue. Il se dirige à pied vers le commissariat et appelle Hassan Sükür. Hassan décroche rapidement, puis baisse le volume de la radio.
Vous avez trouvé des traces de liquide combustible? Il reste des sachets d'UO dans la cage d'escalier et je me suis dit,
eh bien ce qu'il y a, c'est que si quelqu'un verse du liquide allume-feu, c'est évidemment ce qui se consume en premier.
Je sais, mais ce qui...
Cela dit, j'en trouve souvent des traces,
poursuit-il.
En général, il coule entre les lattes des planchers, atterrit dans le contre-plafond, sur la laine de verre ou sur la plaque du contre-plafond lorsqu'elle n'a pas brûlé.
« Et dans notre cas ?»
demande Yona en descendant la pente de Anverkargatan.
« Rien, »
répond Hassan.
« Mais si l'on sait où les traces de l'allume-feu sont susceptibles de s'accumuler, il est possible de l'éviter. »«
Évidemment, je n'aurais jamais commis ce genre d'erreur si j'étais pyromane, »
répond gaiement Hassan.
« Mais dans ce cas précis, vous êtes persuadé que c'est le fer à repasser qui a causé l'incendie ?»«
Oui, c'était un accident. »«
Alors vous avez classé l'affaire ?»«